Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Alors qu'un variant, un premier cas de variant indien détecté au Québec, l'Inde a enregistré plus de 2100 décès et près de 315 000 nouveaux cas en 24 heures. Avec nous, il est correspondant pour Radio France Internationale à Bangalore en Inde, Combe Bastin. Monsieur Bastin, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, à Bangalore, une petite ville en Inde de 12 millions d'habitants. Comment ça se passe dans la rue?
Ouais, une petite ville, tout est relatif.
Ouais.
Mais dans la rue, c'est un peu le jour et la nuit, parce qu'il y a vraiment un mois, tout était réouvert, les gens commençaient à reboire des bières, parce que la ville est connue pour cela, des bières dans les pubs... des événements, des soirées, les restaurants bondés, les marchés indiens, comme on l'imagine, avec les fleurs, les légumes, tout plein à craquer, et pourtant, pas beaucoup de cas. Mais là, voilà, comme vous l'avez dit, en quelques semaines, on est passé de 20 000 à 300 000 cas, et c'est parti de Bombay, qui est la capitale économique, mais maintenant, c'est en train de se répandre à toute l'Inde, et donc Bangalore, au début, a pas pris ça très au sérieux, a continué à festoyer, à manger, à vivre, comme on se l'imagine en Inde. Et maintenant, la ville est complètement dépassée. Donc, l'État, le Karnataka, l'État de Bangalore, vient d'imposer des restrictions. Donc, confinement le week-end, couvre-feu la semaine à partir de 10h, qui est devenu 9h, qui est maintenant devenu 8h. Mmh. Et fermeture des services non essentiels, qui est toujours un peu relatif en Inde. Mais ça veut quand même dire que petit à petit, les rues sont en train de se vider. Le soir et même pendant la journée. Et ça fait bizarre parce que tout cela est arrivé très vite et qu'il y a encore un mois et demi, on nous expliquait que, en gros, le virus était terminé en Inde.
Est-ce qu'on comprend ce qui s'est passé là? Est-ce qu'on comprend pourquoi la situation a changé à ce point-là?
Alors, c'est une très bonne question. Je prétends pas avoir toutes les réponses.
Non, très bien.
Voilà, parce qu'il y a une hypothèse, évidemment, qui est le relâchement de la discipline. C'est vrai que les gens ne faisaient plus attention, portaient le masque en dessous du menton, faisaient des grosses réunions, etc. Mais en même temps, ça, honnêtement, pour vivre dans le pays, ça fait 6 mois que c'est le cas. Donc, s'il devait y avoir une deuxième vague, elle serait arrivée en novembre ou en décembre, mais pas forcément en avril. Donc, je pense que ça joue, ce relâchement de la discipline, mais c'est un facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'on a vu des rassemblements monstrueux ces derniers mois pour deux raisons. D'un côté, des élections législatives en Inde où il y a eu des meetings de Narendra Modi, le Premier ministre, avec des dizaines de milliers de personnes sans masque, sans gel, sans rien du tout. Et puis surtout la Kumbh Mela, qui est le plus grand pèlerinage religieux du monde, hein, devant la Mecque. Ça arrive tous les 4 ans en Inde et ça jette des dizaines de millions d'hindous entassés sur les bords du Gange, donc le fleuve sacré de l'Inde dont les eaux sont censées être purificatrices. Donc tous ces rassemblements, ça a sans doute aussi accéléré le phénomène. Mmh. Et puis, il y a une troisième explication sur laquelle on ne sait encore pas grand-chose, mais qui, à mon avis, est la principale des explications, c'est l'apparition d'un nouveau variant qu'on disait encore inoffensif en mars, mais qui a l'air très méchant en réalité, qu'on appelle le variant indien. Et ce variant indien, c'est ce qu'on appelle un double mutant, c'est-à-dire qu'il a à la fois des mutations du variant brésilien et des mutations du variant sud-africain. Donc il est plus contagieux, il est plus dangereux. Et par exemple, aujourd'hui à Bombay, d'où est partie la deuxième vague, plus de 70% des cas proviennent de ce variant. Donc je pense, voilà, je dirais méga rassemblement, baisse de la discipline et arrivée de nouveaux variants.
Est-ce que, Combe Bastin, est-ce qu'on prend la chose un peu plus au sérieux là, présentement, ou on veut défier les consignes sanitaires?
Je pense que l'État indien central, hein, parce que c'est un État fédéral, l'Inde, l'État indien central ne va pas imposer de nouveaux confinements, à la fois pour des questions d'opportunisme politique, parce que c'est pas facile de faire ça, et puis aussi, il faut avoir conscience qu'en Inde, les gens vivent beaucoup de boulot au jour le jour, donc le premier confinement a quand même été terrible pour la population, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le type qui tient un atelier de cirage de chaussures ou qui est chauffeur de tuk-tuk se retrouve sans le sou. Mais ces gens-là n'ont aucune économie. Donc c'est très compliqué d'imposer un confinement au niveau national. Donc je ne pense pas que ça aura lieu. Par contre, au niveau des États, au niveau fédéral, je pense que là, les politiques vont prendre leurs responsabilités. Et c'est sans doute un peu tardif. Mais là, on voit quand même que là où je suis, à Bangalore, on se dirige vers un confinement. À Bombay, la capitale économique, on est déjà dans un confinement. À Delhi, la capitale politique, il y a un confinement le week-end, un couvre-feu la semaine. Donc je pense qu'à défaut d'une volonté nationale, parce que le gouvernement n'aura peut-être pas le courage de le faire, les États vont prendre des mesures pour s'adapter à cette flambée.
Et du côté médical, comme Bastien, je lisais ce matin qu'il y a 24 cas des gens qui sont morts parce qu'il y avait des fuites d'oxygène, il y a pénurie d'oxygène en Inde. Est-ce que les hôpitaux tiennent le coup s'il y a autant de nouveaux cas?
Oui, vous avez tout à fait raison. Ça s'est passé à Nashik et c'est vraiment une histoire tragique. Il me semble que ce sont des réservoirs d'oxygène qui étaient vides ou qui ont fuité. Et 25 personnes qui étaient reliées à ces bouteilles sont tout simplement mortes parce qu'elles n'étaient plus alimentées en oxygène. Donc c'est un peu un accident là, quelque part, parce que c'est une fuite d'oxygène. Mais derrière cet accident, ça révèle un problème vraiment plus large, qui est que le pays ne s'est pas du tout préparé à cette seconde vague. Et on le voit en particulier, comme vous le dites, dans le manque d'oxygène. Et ça, c'est vrai, pas seulement à Nashik, où cet incident s'est passé, mais aussi là où je suis, à Bangalore. C'est vraiment le grand problème aujourd'hui. Et il y a des hôpitaux qui ont des lits, mais ils n'ont pas l'oxygène pour intuber les patients qui sont dans des cas le plus critiques. Et ça, c'est vraiment effrayant. Et on se demande ce que l'Inde a fait pendant ces 6 mois, parce que même si le virus baissait, c'était quand même prévisible quand on regarde les autres endroits dans le monde. Ouais. On sait qu'il peut y avoir des deuxièmes vagues et on n'a pas l'impression que le pays se soit préparé au niveau des structures hospitalières pour y faire face. Et donc, pour répondre très franchement à la question, non, les hôpitaux, là, n'arrivent plus à tenir la pression. Il manque de tout, il manque des médicaments, il manque de l'oxygène, il manque des lits, il manque du personnel, il manque des ambulances, il manque des places de cimetière ou des places dans les crématoriums pour les hindous. Voilà, on est dépassé.
Ouais, je disais que les fossoyeurs étaient débordés aussi. Là, c'est vraiment comme le cocktail parfait là pour une catastrophe.
Oui, oui, tout à fait. Et honnêtement, on retient tous notre souffle parce que on peut même pas se dire qu'on est au sommet de la vague vu la pente de la courbe. Les hôpitaux sont débordés, mais on sait objectivement que ça va être pire dans les semaines à venir. Alors, il faut sans doute compter sur la réaction des États. On espère que le gouvernement central va aussi réagir, arrêter avec ces meetings géants politiques alors qu'on est en pleine deuxième vague. Et puis, on voit aussi quand même une grande solidarité des habitants. Hein. Moi, j'habite à Bangalore, je vois des gens qui se démènent pour aller trouver 3 bouteilles d'oxygène et les acheminer. Il y a des gens qui envoient des messages sur Twitter pour dire qu'il leur manque tel médicament et d'autres qui essayent de répondre. Donc il y a une solidarité à défaut de moyens étatiques. Il y a une solidarité entre les habitants qui est quand même là. Mais est-ce que ça va suffire pour les prochaines semaines? J'ai peur que non.
Êtes-vous vacciné?
Alors je ne suis pas vacciné parce que il y avait un plan de vaccination en Inde qui devait se faire en 3-4 phases avec d'abord les plus vieux, ensuite les personnes victimes de comorbidité, ensuite les plus de 45 ans, etc. Devant l'urgence de la situation, là, ils ont tout annulé. Ils ont dit qu'en gros, à partir du 1er mai, toutes les personnes de plus de 18 ans pourraient se faire vacciner. Mais pour l'instant, je n'y étais pas éligible. On a fait une lettre commune des journalistes en Inde disant que quelque part, on faisait aussi partie de ce qu'on appelle les frontline workers, des gens au contact de la maladie, et que donc à ce titre-là, on pourrait avoir le droit d'être vacciné, mais on n'a jamais eu de réponse. Donc on va voir à partir du 1er mai, c'est ouvert. Mais il faut voir aussi s'il y aura tout simplement... Parce que là, on va ouvrir d'un coup à tous les plus de 18 ans en Inde. Ça fait
800 000 hein?
personnes. Donc,
ouais. Mais comme on dit, ça fait du monde à la messe, on dit ça ici. Mais si je vous souhaite pas, là, comme Bastien, je suis content de vous parler, là, je l'apprécie beaucoup, mais je vous souhaite pas de contracter ce coronavirus, mais dans les circonstances, pour vous, là, en dehors de l'Inde, ça doit être inquiétant.
La première vague, parce que ça touchait des personnes plus âgées, parce qu'aussi les chiffres étaient moins inquiétants. J'avais pris mon risque, parce que quand on est journaliste, à un moment, il faut aussi le faire. Donc j'étais allé dans des hôpitaux, j'étais allé au contact des malades, dans des cimetières, etc. Là, j'avoue qu'en toute honnêteté, vu la situation hospitalière, vu qu'on entend qu'il y a même des gens qui meurent faute d'oxygène, etc., eh bien, pour l'instant, je mets mes reportages en pause, à mon grand regret, parce que c'est mon travail et que j'aime ça, mais je ne peux pas prendre le risque d'avoir cette maladie en Inde aujourd'hui, parce que je ne sais pas si je ne pourrais être traité.
Ouais. Et la campagne de vaccination, Combastin, je lisais que c'est même pas 1,5% de la population qui a été vaccinée. C'est, ça non plus, ce n'est pas un grand succès.
Alors, attendez, je voudrais pas dire de bêtises sur les chiffres.
Vous me trompez?
Non, il me semble qu'ils ont vacciné 100 millions, un peu plus de 100 millions de personnes. Donc, il faut toujours ramener ça à l'Inde. On a 1,3 milliard, 1,4 milliard.
Donc, c'est 10%.
Ça fait moins de 10%, disons, mais pas 1% non plus.
Non, c'est ça.
Voilà. Mais alors après, il faut distinguer là-dedans qu'il y a eu une première dose ou une seconde dose. Peut-être que vous faites référence aux personnes qui ont eu leurs deux doses.
Ah, peut-être.
Et à ce moment-là, c'est possible qu'on soit à 2%.
Oui, vous avez raison. Personne entièrement vaccinée, 1,3% de la population. Alors là, ouais. une seule dose, c'est le chiffre est plus grand. Alors
ce qui fait peur, si je peux me permettre,
oui, allez-y.
C'est qu'on voit avec ce nouveau variant qu'on a encore des gros doutes sur l'efficacité des vaccins. Il y a, par exemple, moi, j'habite à Bangalore, donc c'est l'état du Karnataka, et le ministre en chef du Karnataka, pour vous donner une idée. Il est tombé malade du Covid en août, donc pendant la première vague. Entre-temps, il s'est fait vacciner. Et malgré le fait qu'il soit déjà tombé malade et malgré le fait qu'il soit fait vacciner avec ses deux doses, il vient de retomber malade.
Aïe, aïe, aïe.
Et c'est le cas aussi de Shashi Tharoor, qui est un député du Parti du Congrès très connu, qui a été vacciné et qui vient de tomber malade. Alors sûrement, le vaccin aide à minimiser les symptômes, à être plus résistant, mais ce n'est pas une protection absolue.
En conclusion, je me posais la question, la réalité des castes en Inde, des liens, des niveaux sociaux, la hiérarchie sociale, est-ce que ça doit influencer le taux réel de cas de COVID rapportés dans les médias?
Oui, alors, sans même parler de caste, juste si on s'en tient aux classes sociales, moi, ce que j'ai observé, c'est que, comme je disais, il y a les personnes les plus pauvres, les classes ou les castes les plus pauvres en Inde, ils ont ce qu'on appelle des salaires journaliers, c'est-à-dire qu'ils vivent au jour le jour. Et ils ont très peur de se faire tester, parce que se faire tester, ça veut dire qu'ensuite on est censé faire une quarantaine ou peut-être aller dans un centre d'isolation, donc que du jour au lendemain, votre famille n'a plus de revenus. Donc ces gens-là se disent, bon, même si je l'attrape, il y a quand même 9 chances sur 10 pour que je sois asymptomatique. Je préfère prendre le risque de l'avoir sans le savoir et au moins de ne pas me faire isoler plutôt que de me faire tester et d'être envoyé en centre de quarantaine. Donc je pense qu'il y a eu, effectivement, la classe moyenne, elle est très inquiète. Elle peut se faire tester, elle peut quand même se faire soigner, etc. Je pense que par contre, pour les castes ou les classes les plus basses, il y a une sous-déclaration, une sous-estimation des cas et des malades, voire même des morts, parce que les gens ne veulent pas. Il y a trop de stigmatisation associée à ce virus. Ils ne veulent pas se faire tester. Ils ne veulent pas perdre leur travail.
Ouais. Est-ce que ici, là, au Canada, au Québec, là, on est en train de vérifier si on interdit les vols en provenance de l'Inde pour le Canada? Ouais. Est-ce que vous vivez la même chose en France? Est-ce que vous pourriez retourner en France si vous le désiriez?
Alors, justement, la France, hier soir, il me semble, a annoncé qu'elle fermait ses frontières avec l'Inde. Donc, moi, je suis quand même citoyen français, donc je pourrais revenir. Mais comme mon travail et ma vie est en Inde, je peux difficilement revenir pour plus d'un mois en France. Et là, si je reviens, il faudra que je passe 14 jours à la maison, avec la police qui vérifie si on y reste bien, et 1 500 €, donc 1 000 $ canadiens ou quelque chose comme ça, d'amende, non, même plutôt 2 000 $ canadiens, d'amende si jamais je ne respecte pas ce couvre-feu. Donc ça n'a pas grand intérêt pour moi de prendre un billet super cher pour revenir en France, pour me retrouver coincé 15 jours chez moi. Donc théoriquement c'est possible, mais malheureusement je pense que mes projets, c'est vrai que j'avais voilà, sans être trop personnel, un peu envie de voir ma famille cet été, etc. Mais ça va être compliqué.
Alors, on va suivre ça. Un immense merci, Combe Bastin, qui est correspondant pour Radio France Internationale, situé à Bangalore, en Inde. Sérieusement, bonne chance à vous.
Merci Benoît, merci Cube Radio.
Merci, au revoir.